Les élus du Congrès réunis en séance publique, une partie de la journée, boulevard Vauban. Les conseillers ont notamment adopté le texte modifiant la TGC. La province sud n'acceptera plus les attestations d'hébergement dans les demandes de dérogation scolaire. La province qui s'aligne ainsi sur le vice-rectorat qui applique déjà ce principe pour les inscriptions en collège et lycée. Le bilan météo de l'année 2024, on en retient notamment que l'année écoulée est la troisième année la plus chaude en Calédonie depuis que l'on fait des relevés fiables. La CCI accompagne les femmes dirigeantes inspirées et inspirantes. Durant près de 6 mois, 13 femmes vont participer à un dispositif d'accompagnement basé sur l'économie sociale et solidaire. Et puis le sport et le tennis, c'est la suite de l'Open d'Australie. Gaël Monfils et Corentin Moutet se sont qualifiés cet après-midi pour le troisième tour de la première levée du Grand Chelem. Bonsoir, soyez les bienvenus dans ce journal. L'actualité politique fait la une ce soir. Une réforme de la TGC adoptée à l'unanimité. Le texte conditionne le versement de la dernière tranche d'aide de l'État de 9 milliards de l'année 2024. Cette réforme, préparée par le 17e gouvernement, avait pour objectif d'améliorer le rendement de la TGC à hauteur de 6,5 milliards de francs par an, Jean-François Bodin.
Oui, une augmentation de la pression fiscale qui avait provoqué une levée de boucliers de la part des groupes loyalistes Rassemblement et Calédonie ensemble. Aujourd'hui, lors de cette séance, un grand nombre d'amendements a été adopté et des articles ont été rejetés. La loi du pays qui a donc été adoptée est bien loin du texte préparé par le précédent gouvernement. Virginie Rufnac est chef du groupe Rassemblement.
C'est un texte qu'on a passé en une version minimaliste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'augmentation de la pression fiscale des Calédoniens, pas de changement des taux de TGC. Donc nous avons simplement supprimé quelques exonérations et nous nous lancerons dans une réforme plus globale plus tard, mais pas dans le contexte très difficile que connaissent les Calédoniens aujourd'hui, avec beaucoup de chômeurs, avec des entreprises en grande difficulté. Ça n'était pas le moment d'augmenter les taux de TGC aujourd'hui. Donc nous sommes satisfaits qu'il y ait une forme presque d'unanimité des élus présents aujourd'hui pour aller dans ce sens-là.
Les loyalistes se satisfont de l'adoption de ce texte qui va permettre d'envoyer un message à l'État pour le versement de la dernière tranche d'aide, explique Gilles Brial.
On avait besoin d'envoyer un signal à l'État. Il y a encore 9 milliards à débloquer, 9 milliards qui vont venir sauver le RUAM et Narcal, donc on en a besoin. Donc il fallait adresser un signal sur le fait qu'on a conscience qu'il faut faire des réformes. Mais pour nous, c'est une réforme d'attente, c'est-à-dire qu'il faut que le gouvernement nous fasse une grosse réforme qui est d'abord appuyée sur un plan d'économie de nos politiques publiques, y compris sur la santé, et adossée à une fiscalité qui prenne en compte la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Calédoniens ne peuvent pas payer plus. Il faut créer une dynamique de reconstruction, il faut faire venir du monde en Nouvelle-Calédonie et la fiscalité évoluera naturellement.
La réaction également de Philippe Dunoyer pour Calédonie Ensemble qui a également voté en faveur de ce texte, revu et corrigé.
Mais parce que c'est plus du tout la même, parce qu'en fait la loi qui reste aujourd'hui, c'est celle dont on a enlevé tout le caractère dangereux. On ne voulait pas de cette loi parce qu'elle augmentait la pression fiscale en réduisant le nombre de taux. Il n'y a plus de réduction du nombre de taux. On ne voulait pas de cette loi parce qu'elle augmenter la pression à l'impôt sur le revenu pour les entreprises au forfait, qu'on a convaincu les collègues au Congrès de ne pas adopter cette augmentation d'impôt sur le revenu. Cette loi induisait aussi une augmentation pour les entreprises au forfait. Ça les aurait emmenés à augmenter leur prix de 10, 18 ou 22%. Ça aussi, ça a été retiré. En gros, en fait, toute la pression fiscale supplémentaire qui faisait qu'on était contre ce texte a été totalement retirée. C'est une victoire, ce qui fait qu'on a au final voté ce qu'il restait du texte, débarrassé de tout son caractère périlleux fiscalement.
Le rapporteur du texte, Sylvain Pabouty, du groupe UCFLNKS et nationaliste, déplore un texte à minima, mais qu'il fallait malgré tout adopter selon lui.
À minima parce qu'il était nécessaire quand même. Ça fait partie des conditions imposées par l'État français, notamment dans la convention d'avance, pour avoir la totalité des 27 milliards. Donc il manquait ce texte-là, donc enfin, il a été voté, même si c'est un minima. Mais c'est très important, c'est nécessaire, parce qu'on a bien besoin pour terminer l'année 2024 dans de bonnes conditions. Donc c'est très important pour les Calédoniens.
Le gouvernement va donc maintenant travailler un ensemble de mesures pour diminuer les dépenses et relancer l'économie du territoire, et in fine la consommation. Alcide Pongal, le président du gouvernement.
Une satisfaction à la fin, c'est que l'ensemble des élus présents ont voté le texte. C'est sûr qu'il va y avoir des discussions ensuite avec l'État pour le reste de l'enveloppe qui était prévue. Au-delà de la TGC, je pense qu'il faut regarder globalement qu'est-ce qu'il est possible de faire ou pas sur le plan fiscal. Mes collègues ont sollicité un vœu au gouvernement pour qu'il puisse y avoir un séminaire assez rapidement pour travailler dessus. Je peux opposer parce que la situation l'exige.
La séance du Congrès s'est poursuivie par l'adoption d'une loi modifiant le Code civil. En revanche, le projet de loi du pays relatif aux protections de marché a été ajourné en raison de l'absence de la rapporteure Inès Coité, l'ensemble du groupe UNI ayant boycotté cette séance.
Les élus ont également adopté plusieurs projets de délibération, mais aussi un vœu relatif à la mise en place d'un séminaire consacré au redressement des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie et de ses établissements publics. Écoutez à ce sujet, François Suvet, c'est la chef de l'intergroupe Les Loyalistes qui avait déposé ce vœu avec le groupe Rassemblement.
Ce vœu, en fait, il a été déposé en janvier 2024, donc il y a plus d'un an. Entre-temps, on a eu évidemment les événements de 2024 qui ont mis carrément par terre la Nouvelle-Calédonie. Autant dire qu'on a régressé vers de la modernité, on est tombé dans une précarité totale. Et qu'aujourd'hui, effectivement, il y a l'aide de l'État, et merci à l'État. Mais il y a aussi les efforts que la Nouvelle-Calédonie doit faire de son côté. Donc il y a un train de réforme à mener, il y a des solutions absolument à rechercher, comme la mutualisation, la fusion d'établissements publics, de services. Et ça, ce travail-là, il faut absolument qu'on l'enclenche. C'est maintenant, sinon on est carrément au pied du mur, et si on ne le fait pas, on aura vraiment raté la marche. Donc on a saisi l'opportunité, évidemment, de l'arrivée du nouveau gouvernement pour l'interpeller sur ce séminaire, et nous attendons évidemment que ce séminaire soit mis en place le plus rapidement possible.
Oui, j'ajoute que nous reviendrons sur la séance du Congrès demain à 7h30. C'est en effet Virginie Rufnacht, chef du groupe Rassemblement, qui sera notre invitée du matin. J'ajoute encore que les élus du Congrès se retrouveront demain à huis clos, cette fois-ci pour une commission plénière. Ils auditionneront des représentants du monde de l'agriculture sur notamment les risques de l'arrêt de certaines aides sur l'ensemble des filières. Et puis notez toujours au chapitre politique que la nuit dernière, le Sénat a adopté dans le cadre de l'examen du budget de l'Outre-mer une série d'amendements déposés par le sénateur Georges Naturel qui prévoit une subvention de plus de 23 milliards de francs de soutien supplémentaire à la Calédonie. Dans les semaines qui viennent, il reviendra à l'Assemblée nationale de confirmer cette subvention.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et voici notre question du jour. Pensez-vous que l'ensemble des formations politiques se rendra à Paris pour participer aux discussions sur l'avenir annoncé par le Premier ministre dans sa déclaration de politique générale? Si vous pensez que l'ensemble des formations politiques se rendra à Paris, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à notre question d'hier, à 100%, les auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS craignent une hausse significative des accidents mortels de la circulation cette année, après un taux de mortalité routière exceptionnellement bas en 2024. Les conditions d'inscription en primaire durcies par la province sud. Désormais, les simples attestations d'hébergement ne seront plus acceptées dans les demandes de dérogation. Une décision prise car la collectivité fait face à un afflux massif de demandes d'inscription de dernière minute cette année, Charlotte Coulson.
Dans quelle école inscrire son enfant pour la rentrée 2025? Une problématique moins simple qu'il n'y paraît. Un casse-tête parfois pour les parents et peut-être encore plus pour les collectivités qui reçoivent les enfants. Car il faut trouver une place pour chacun et chacune, ne laisser personne pour compte. Pourtant, de la place, il n'y en a pas toujours. Cette année, les demandes d'inscription de dernière minute ont explosé. Ce sont près de 1000 dossiers qui sont à traiter depuis la fin des inscriptions en août 2024, soit plus du double de l'an passé. Un nombre conséquent d'élèves, il a donc fallu durcir les conditions d'inscription, particulièrement en ce qui concerne les demandes par attestation d'hébergement. Un phénomène qui s'est accentué cette année, c'est ce que constate Christophe Bergerie, secrétaire général à l'adjoint de la province sud.
Ce qui est assez nouveau pour cette année, c'est qu'il y a beaucoup aussi d'inscriptions avec des simples attestations d'hébergement. Il y a un double phénomène. Il y a un phénomène évidemment en fait de personnes qui vivent dans les squats. On a toujours eu ces personnes qui vivent dans les squats et qui viennent avec des attestations, donc ça change pas, on le sait. Mais il y a aussi un autre phénomène en fait, on va dire, de contournement de la carte scolaire. Des parents qui souhaitent inscrire leurs enfants dans des quartiers, on va dire, réputés plus sécures. Mais simplement, on ne peut pas nous répondre à toutes ces demandes parce que, encore une fois, la responsabilité de la province, c'est bien de garantir cette qualité d'enseignement, quelle que soit l'école, quel que soit le quartier.
Les simples attestations d'hébergement ne seront donc plus suffisantes pour les inscriptions en primaire. Une mesure qu'applique déjà le vice-rectorat pour les inscriptions en collège et lycée. Concernant la province sud, la décision a été mûrement réfléchie, mais c'est la qualité de l'enseignement à l'école qui a finalement été privilégiée. On retrouve Christophe Bergery.
Alors nous, ça nous pose des vraies difficultés d'ordre d'organisation parce que derrière une inscription scolaire, il y a toute une organisation. Vous imaginez bien qu'il faut prévoir des locaux, il faut prévoir des équipements, des enseignants. Et tout ça se prépare des mois à l'avance. Comment on arrive aussi après à concilier ces arrivées massives de dernière minute avec un objectif de qualité d'enseignement? C'est-à-dire que l'objectif de la province, c'est de pouvoir garantir un enseignement de qualité partout, quelle que soit l'école, quel que soit le quartier, quelle que soit la commune. C'est les mêmes enseignements, c'est les mêmes professeurs, c'est les mêmes équipements, c'est les mêmes programmes. Mais cet objectif de qualité d'enseignement, il ne peut pas se concilier si on a des arrivées massives au dernier moment. C'est très compliqué pour nous.
Christophe Bergery, secrétaire général adjoint de la province sud, qui ajoute qu'évidemment, chaque demande sera traitée avec la même attention que les années passées.
Il est 17h56, on va marquer une première pause dans ce journal.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La Sud-Est au soir, Lionel Sabot.
Une année 2024 chaude, mais pas forcément très sèche. C'est ce qu'il ressort du bilan météo de l'année écoulée qui a été présenté ce matin par les services du Centre Météo France de Nouméa. Néanmoins, il est donc important d'expliquer que l'année météo 2024 s'inscrit dans un contexte plus global et à l'échelle de la planète. L'année 2024 aura été l'année la plus chaude jamais connue depuis le début de l'ère industrielle. Une année chaude tant au niveau des températures de l'atmosphère qu'au niveau des océans. Un état de fait qui a des conséquences et des répercussions en Nouvelle-Calédonie. Thomas Abinoun est climatologue au Centre Météo France de Nouméa.
L'année 2024, elle est remarquable par des températures qui sont restées élevées et au-dessus des normales presque toute l'année. Elle se situe comme la troisième année la plus chaude depuis 1965, avec des températures notamment en saison fraîche qui ont été très très douces. Et concernant les pluies, on a des pluies qui ont été conformes à la normale en moyenne pays et en moyenne annuelle. Mais derrière cette normalité, en réalité, il y a un vrai contraste, un contraste géographique avec la côte ouest qui a été faiblement arrosée, tandis que la côte est, elle, a connu un excédent de pluie de l'ordre de 15%. Des pluies en saison humide qui ont été conformes au normal en début d'année 2024 et supérieures au normal avec l'apparition de la Niña en toute fin d'année. Mais la saison hivernale de mai et jusqu'à septembre a été l'occasion d'une sécheresse qui a touché l'ensemble du pays.
Et concernant les précipitations, on retiendra que la station de relevé de Bouraké à Bouloupari a enregistré le cumul le plus faible de l'année 2024 avec 471 mm de précipitations. A contrario, la station de Goro, ancienne pépinière, a enregistré le plus fort cumul de l'année 2024 avec 3713 mm, ce qui représente tout de même un peu plus de 3 mètres de précipitations sur une année. On retiendra également de cette année 2024 que pour la première fois depuis 1977 et le début de l'ère satellitaire en météorologie, aucun cyclone n'a été signalé dans notre zone de surveillance cyclonique. Cela peut paraître de prime abord paradoxal à l'heure où, on le disait, les températures des océans sont de plus en plus chaudes. Explication de Thomas Abinoun.
À l'échelle planétaire, ce dont on est sûr, c'est que le changement climatique provoque non pas une augmentation du nombre de cyclones, mais on observe une augmentation de l'intensité des cyclones. Plus de vent, plus de pluie et souvent plus dévastateur. Donc ça, c'est une réalité à l'échelle planétaire. Au niveau du Pacifique, pour l'instant, il n'y a pas encore de véritable consensus là-dessus. Néanmoins, si on regarde l'évolution du nombre de cyclones, eh bien, on observe quand même que depuis 20 ans, on en a moins qui circulent sur le Pacifique et on observe aussi qu'ils sont plus intenses. Mais on ne peut pas affirmer que c'est une tendance qui va s'inscrire dans la durée, même si on peut l'observer concrètement depuis 20 ans. Hein, il y en a un peu moins, ils sont un peu plus forts. Il nous faut encore davantage de données pour pouvoir confirmer que ce signal s'inscrira dans la tendance.
Et concernant les premières prévisions pour l'année 2025, les modèles indiquent que pour les 12 prochains mois, le phénomène La Niña devrait rester faible, que les précipitations devraient être supérieures au normal au moins durant le premier semestre et que les températures devraient également rester supérieures au normal. L'économie calédonienne et les entreprises sont toujours au bord du précipice. 8 mois après les émeutes de mai 2024, les acteurs économiques sont toujours très inquiets et nous en avons parlé ce midi dans les jeudis de l'économie qui faisaient leur retour après la période des fêtes de fin d'année, Jean-François Bodin.
Le traumatisme est encore là, celui vécu par les chefs d'entreprise qui ont vu leur outil de travail ou de production détruit, comme celui du quotidien désormais des acteurs du tissu économique qui ont toujours l'impression d'être au bord du précipice et fonctionnent sans savoir vraiment où ils vont. Laurent Vierconde, les chefs d'entreprise, est aussi le président du syndicat des importateurs.
Aujourd'hui, on a encore des problèmes énormes des assurances. Au moment où je vous parle, j'ai finalisé mon dossier le 15 décembre. Je n'ai toujours pas les fonds pour pouvoir redémarrer mon activité qui, elle, a une deadline. C'est la date de mon incendie, le 16 mai. Donc voilà, les chefs d'entreprise aujourd'hui sont dans l'attente. Donc on continue nos activités au péril. Il y a des secteurs qui fonctionnent plus ou moins. Il y a d'autres secteurs qui sont en perte de chiffre d'affaires entre 30 et 40%. Il y en a d'autres qui ont perdu 80% des chiffres d'affaires, tous ceux qui sont liés à l'industrie minière, à tous ces secteurs-là. Voilà, aujourd'hui, on a besoin d'une visibilité très rapidement, d'une discussion de nos politiques avec l'État sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Mais s'il n'y a pas d'avenir, de toute façon, on ne pourra pas alimenter nos caisses de retraite, on ne pourra pas alimenter les services fiscaux pour pouvoir faire des subventions à toutes les associations sportives, culturelles, et revivre un système qu'on vivait et qui fonctionnait très bien, quoi.
Et le monde économique a le sentiment que malgré les urgences parfois absolues, rien n'avance, a souligné le président de la FINC, Xavier Benoît.
On n'arrête pas d'expliquer que l'économie canadienne est toujours en sauvegarde. Et on a des hauts responsables de l'État, on a des administratifs qui nous répondent. Non, les conditions de la relance sont présentes. Moi, je ne vois pas les conditions de la relance aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Et effectivement, c'est un combat perpétuel vis-à-vis de l'État et de l'ensemble de l'État, vis-à-vis des collectivités, des élus calédoniens, pour faire comprendre qu'on est en sauvegarde. Et tant qu'on n'aura pas passé cette phase de sauvegarde, on ne pourra pas redémarrer.
Les collectivités qui le sont aussi en phase de sauvegarde, hein.
Oui.
Pour une bonne partie d'entre elles, en tout cas.
Non, mais elles sont en sauvegarde, elles, aujourd'hui, parce qu'elles ont du mal à payer leur salaire. D'accord ? Nous, on est en sauvegarde parce qu'on a des outils qui ont été détruits. Ce n'est pas tout à fait la même situation.
C'est un combat permanent que doivent mener les entreprises pour sauvegarder leurs activités et leurs salariés. C'est aussi un combat contre le temps, a souligné Bertrand Courte, le vice-président du MEDEF.
Les entreprises calédoniennes se battent aujourd'hui contre le temps. Parce que le temps passe, le temps compte énormément, et ça a toujours été un peu le problème dans les discussions avec le politique, c'est qu'on n'a pas la même notion du temps. Aujourd'hui, depuis le 13 mai, il y a eu je ne sais combien de réunions, combien de rencontres, de notes qui ont été faites par les organisations patronales, par les syndicats professionnels, pour attirer l'attention du politique. On dit attention, il y a urgence, on ne va pas tenir, on va mourir. Et à chaque fois, on a du mal, que ce soit en local, que ce soit avec l'État, à faire prendre conscience qu'aujourd'hui, on est plus qu'au bord du précipice. Là, on va tomber, on va tomber.
Une fois encore, les acteurs économiques parlent d'un impératif besoin de visibilité, notamment de visibilité sur l'avenir institutionnel. Sans cela, pas de reprise ou de relance économique, sans compter qu'il faudra un nouveau modèle. Sur 60 000 emplois dans le privé, 11 000 ont été détruits par les émeutes et leurs conséquences. Pierrick Chatel est le secrétaire général de la CPME.
Il faut inverser aussi le paradigme. Il faut que le secteur public fasse en fonction des recettes de l'argent dont il dispose et non l'inverse comme ça se fait jusqu'à présent. Si vous disposez de 100, et ben vous utilisez 100, vous ne mettez pas vos besoins à 150 ou à 200. Il y a vraiment cette inversion de paradigme à avoir. Et puis aujourd'hui, les provinces sont compétentes en matière de développement économique, de tourisme, d'environnement. Est-ce qu'il est judicieux avec un tissu économique à l'agonie de conserver autant de services redondants ? C'est quelque chose aussi qui doit s'envisager dans le cadre des discussions et d'une réforme institutionnelle. institutionnelle complète.
Voilà donc pour ces extraits des Jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu qui sont à retrouver comme chaque semaine en podcast audio et vidéo sur notre site rrb.nc.
Des femmes chefs d'entreprise accompagnées dans leur parcours professionnel par la CCI, c'est tout l'objet du dispositif Femmes dirigeantes inspirées et inspirantes lancé aujourd'hui, Charlotte Coulson.
Elles sont 13 venant d'un peu partout, de Calédonie et même des îles, à avoir été retenues pour participer à ce dispositif d'accompagnement piloté par la CCI. Toutes ont une entreprise en lien avec l'économie sociale et solidaire, et durant près de 6 mois, elles vont se côtoyer, apprendre les unes des autres et acquérir de nouvelles compétences. Parmi les participantes, Amélie Tabar, est directrice de la ressourcerie à Nouméa. Elle faisait partie de la première session en 2024, mais en raison des émeutes, le dispositif n'avait pas pu aller à son terme. Elle a donc intégré avec joie la nouvelle promotion.
C'est l'occasion d'une mise en réseau avec de nombreuses femmes qui portent des valeurs communes. C'est aussi l'occasion, je pense, de pouvoir vraiment échanger de façon concrète, de pouvoir monter en compétences, de pouvoir prendre du recul sur nos dispositifs qu'on pilote toutes. C'est aussi la possibilité de mettre la lumière sur ces femmes qui dirigent des structures. C'est aussi une façon de mettre la lumière sur l'économie sociale et solidaire, sur laquelle on attend quand même une loi depuis de nombreuses années, nous les acteurs de terrain, et de peut-être dire que voilà, on n'est pas juste un concept, on est là et on est prête et on est motivé, et c'est super chouette qu'on puisse être accompagné pour faire grandir nos projets. Si en parallèle la loi pouvait nous accompagner aussi, ce serait juste parfait.
Et cet accompagnement est entièrement pris en charge par la CCI, l'AFD, mais aussi le ministère des Outre-mer. Le programme sera modulable et élaboré sur mesure afin de répondre au mieux aux problématiques rencontrées par ces femmes.
Comment se lancer dans le monde professionnel à la fin de leur cursus scolaire? De nombreux jeunes rencontrent des difficultés pour s'insérer dans la vie active. Ils choisissent alors parfois de s'orienter vers un service civique. Ce dispositif, mis en place par l'État en partenariat avec la province Sud, permet de réaliser une mission de 7 mois dans divers secteurs. Aujourd'hui, à l'espace jeune de la province Sud, des recruteurs sont venus démarcher les candidats au cours de Job Dating. C'est près d'une centaine de missions que les jeunes Calédoniens ont pu découvrir. L'opportunité pour les intéressés de gagner en expérience professionnelle et peut-être de trouver leur voie.
Je m'appelle Mouna Noamanae, j'ai 18 ans et je suis actuellement à la recherche d'un travail.
Et c'est quoi pour toi le but de faire un service civique ?
Ben, ça me permet de savoir aussi ce que je veux faire plus tard. Ça va me permettre aussi de faire de nouvelles rencontres. Et puis, ben, peut-être de me motiver aussi pour autre chose. Ils m'ont posé des questions sur quelle mission je voudrais faire et pourquoi. Après, voilà, ça se passe très bien.
Ben, moi, je suis Elena. Je suis actuellement demandeur d'emploi au sein de l'ADEL.
Toi, c'est quoi qui te motive à faire ce service civique ?
Ben, rebondir sur un emploi. Donc là, c'est vrai qu'on ne reçoit pas un salaire, mais plutôt une indemnisation. Donc là, c'est gagner en compétences et en expérience et pouvoir rebondir sur un travail à l'issue. J'encourage la jeunesse à s'orienter et puis ben, surtout se lancer dedans.
Et le job dating continue demain à l'espace jeune de la province Sud. Les seuls critères pour postuler sont l'âge de 18 à 25 ans et jusqu'à 30 ans pour les personnes en situation de handicap et la motivation du candidat. Il suffit pour cela de se présenter avec son CV, sa lettre de motivation. Les inscriptions peuvent également se faire en ligne sur le site internet de la province Sud. Allez, avant de marquer une dernière pause dans ce journal, cette info pratique avec de nouvelles modifications d'horaire de vol chez Air Calin. Notez que la rotation Nouméa-Sydney-Nouméa de demain est retardée de 7 heures. Ainsi, le vol SB140 à destination de Sydney décollera à 15h50 pour n'arriver à Sydney à 19h05. Le vol retour SB141 partira de Sydney à 20h35 pour une arrivée à la Tontouta demain à 23h25. Il est 18h09, une dernière pause dans ce journal. Dans un instant, l'actualité dans la région Pacifique, le tennis et la météo.
La semaine dernière, j'ai encore passé 3 jours à courir après mes factures impayées.
Attends, mais avec ce Blue, c'est automatique. Tu cliques sur relancer tes factures et paf, toutes les relances partent direct par mail à tes clients. Et si tu veux que certaines ne soient pas envoyées, tu les enlèves facilement.
Sérieux ?
Et c'est aussi simple pour gérer tes stocks, créer des devis, gérer ta caisse. Je te parle même pas des exports comptables.
Mais non ! Faut appeler qui pour une démo ?
Va sur soblue.nc, S-O-B-L-O-O. Et fais gaffe, tu pourras plus t'en passer.
Soblue.nc ? Ok, j'arrive !
Soblue, la solution locale qui révolutionne votre gestion commerciale.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 40-20.
Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas à pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
RRB, première radio d'information.
La Sud Info Soir, Lionel Sabot.
Et l'actualité dans la région avec ces intempéries dans le New South Wales. Hier soir et cette nuit, elles ont causé la mort d'une personne et provoqué d'importants dégâts. Correspondance Jean-Pierre Zajac.
Un octogénaire a été tué lorsqu'une branche d'arbre est tombée sur sa voiture dans le centre du New South Wales. Les orages qui s'y sont abattus et qui ont ensuite déferlé sur l'est de l'État ont causé partout des dégâts considérables. Ils étaient accompagnés de pluies torrentielles et de vents violents, dont certaines rafales ont atteint les 120 km/h. Des toitures d'habitations ont été arrachées, tandis que les arbres déracinés se couchaient sur les lignes électriques. Au plus fort de la tempête hier soir, 140 000 usagers ont été privés de courant et plus de 100 000 l'étaient encore ce matin. Les services d'urgence, quant à eux, ont reçu 2500 appels à l'aide ces dernières 24 heures. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
On va rester en Australie avec le tennis et la suite de l'Open d'Australie sur les courts de Melbourne. Et une belle journée encore pour Gaël Monfils, qui n'en finit plus de surprendre depuis le début de la saison. Cet après-midi, il s'est qualifié pour le troisième tour en s'imposant en 3-7 secs sur l'Allemand Altmaier. Score final 7-5, 6-3 et 7-6. Corentin Moutet, de son côté, affrontait lui l'Américain Mitchell Krueger, qui n'a aucun lien de parenté avec Freddy. Le Français s'est imposé en 4-7. 4-6, 6-4, 7-6 et 6-4. Et puis dans le tableau dames, élimination de Varvara Gracheva qui affrontait l'Allemande Lys. La Française s'est inclinée en 3-7, 6-2, 3-6 et 6-4. On termine avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménagé.
Et les couleurs du ciel, c'est avec vous, Nicolas.
Alors, cette nuit, des passages nuageux se maintiendront sur la côte ouest à pointe sud et marée. Ils donneront encore quelques averses qui s'estomperont en cours de nuit. Ailleurs, le ciel deviendra bien étoilé. Sur l'est et marée, le vent d'ouest sera voisin de 5 nœuds. Ailleurs, il mollira autour de 10 nœuds. Localement, encore 15 nœuds sur la pointe sud et l'île des Pins. Les températures minimales seront comprises entre 22 et 26 degrés. Demain matin, sur la façade ouest et l'île des Pins, quelques nuages bas, pourront donner des rares gouttes de pluie. Ailleurs, sous un ciel bien dégagé, le temps sera sec. Sur l'est, le vent sera tout d'abord variable faible, puis des brises de secteur nord s'établiront entre 5 et 10 nœuds. Ailleurs, le vent de secteur ouest sera proche de 10 nœuds, localement 10 à 15 nœuds sur le sud-ouest et l'île des Pins, Lionel.
Il est 18h13, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.